Bonjour et bienvenue à tous dans Spectateur, votre nouvelle émission culturelle sur les ondes de Transistor. Numéro spécial aujourd'hui, puisque je vous emmène à l'Opéra de Lyon, mais pas n'importe où. À l'amphithéâtre, transformé en amphi-jazz pour l'occasion d'un concert de l'Orchestre National de Jazz. Coup de projecteur donc, sur un lieu moins connu de l'Opéra de Lyon. Parce que l'Opéra de Lyon, ce n'est pas que ballets et opéras, ce n'est pas que Macbeth de Verdi ou Cendrillon de Maggie Marin. Dans un cadre unique, l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, l'Amphi, programme des concerts tout au long de l'année et les midis, c'est gratuit. Si vous passez près de l'Opéra à l'heure du déjeuner et que vous voulez savourer une onde de musique, n'hésitez pas à pousser la porte de l'Opéra, quand il est ouvert, ce n'est pas le cas tous les midis tout de même, et asseyez-vous dans les gradins de l'Amphi midi. Sinon, tout au long de l'année, à l'Amphi, vous pourrez plonger dans un bain de musique éclectique. À l'Amphi, il y a en effet pour tous les goûts. Flot de spectacles pour enfants à l'Amphi Jeune, courants musicaux venus d'ailleurs à l'Amphi Monde, et donc vague de jazz dans une ambiance club à l'Amphi Jazz. Je suis donc allé le week-end dernier à l'Amphi Jazz à l'occasion du concert Discovers, donné par l'Orchestre National du Jazz, composé de 10 musiciens, que je cite, Eve Rieser au piano et la flûte, Vincent Lafont au clavier, Antonin Triouong, au saxophone alto, à la clarinette et au piano, Mathieu Metger, au saxophone alto, soprano et sopranino, ainsi qu'aux traitements électroniques, José Mieniel à la flûte, Rémi Dumoulin au saxophone et à la clarinette, Guillaume Poncelet à la trompette, au piano et au synthétiseur, Pierre Perchaud aux guitares sèches et électriques, au banjo et au dobro, Sylvain Daniel à la basse électrique et aux cordes d'harmonie, Johan Serra à la batterie et enfin Daniel Ivinec à la contrebasse. Alors justement, j'ai rencontré Daniel Evinec, contrebassiste, grand musicien, musicien de jazz. Même si vous l'entendrez, il est toujours un peu gêné quand on lui donne cette étiquette, musicien avant tout. Donc, qui a collaboré avec les plus grands, de Peter Gabriel à Francis Cabrel, de Cheb Mami à Salif Keita, de Lily Cube à Tania Maria. Oui, il y en a pour tous les goûts. Boulimique de musique dont on demande souvent l'expertise et qui est également, depuis 2008, le directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz. Je l'ai rencontré avant le concert Discovers et d'ailleurs en fond sonore, vous avez la chance d'entendre les répétitions de la première partie du concert consacrée à la bande-son créée par Duke Ellington pour le film d'Otto Preminger, Anatomy of a Murder. Une belle rencontre avec un grand nom de la musique qui nous parle de l'institution qu'est l'Orchestre National du Jazz, de la situation actuelle de la musique et de la culture, de sa passion pour le jazz. Bref, une belle rencontre, interview. Bonjour Daniel Ivinec.
Bonjour.
Alors nous sommes installés tout près de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon et nous allons parler jazz. Alors du jazz à l'opéra, c'est pas un peu un drôle de mélange tout ça ?
Le genre de choses auxquelles je suis tellement habitué que j'y ai même pas pensé en fait, pour vous dire la vérité. Dans ma discothèque, il y a autant de jazz que d'opéra, que de pop, que de musique du monde, en fait, etc. Donc, ouais, enfin, je me pose pas ce genre de questions.
Et puis c'est un petit peu le principe du spectacle Discover dont nous allons reparler tout à l'heure.
Ouais.
Donc ce mélange, il
est. Et c'est aussi la philosophie générale de cet orchestre que j'ai monté qui définit un spectre assez large de ce qu'est la musique aujourd'hui. Donc c'est un orchestre national de jazz, mais pas seulement.
Mais pas que. Alors justement, on va parler de jazz puisque donc vous l'avez dit, depuis 2008, vous êtes le directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz, qui est une institution créée, je le rappelle pour les auditeurs, sous l'impulsion de Maurice Fleuret. Et il a été créé à l'été 1985 par l'emblématique ministre de la Culture Jack Lang. Et le premier concert a eu lieu le 3 février 1986 au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction de François Janot. Alors, le projet à l'époque, c'était d'aider les musiques autres que classiques et de renouveler le répertoire des grands orchestres de jazz, on va dire. Alors, après 26 ans d'existence, qu'en est-il de cette belle institution qui a, on le sait, tout au long de son histoire, assez été critiqué par certains politiques notamment?
Bon, déjà, ça va bien, merci.
Tant mieux.
Ce qui est fascinant dans cette histoire qui donc se poursuit depuis 26 ans maintenant, c'est qu'il y a eu des points de vue aussi, enfin, autant de points de vue que de directeurs. Donc, voilà, avant, c'était des directeurs musicaux qui, donc, pour la plupart, arrivaient avec leur orchestre sous le bras et leur musique. En fait, ils bénéficiaient d'un label Orchestre National de Jazz pour des projets qui, pour la plupart, étaient déjà en germe ou parfois même existants, à des exceptions près. Hein, mais, et là, moi, je suis dans une situation totalement différente parce que je suis directeur artistique. Donc, j'ai la charge de concevoir des projets, de les définir, de les organiser, de trouver les bons partenaires enfin, avec lesquels collaborer. Donc, je travaille aussi avec d'autres compositeurs, des arrangeurs, etc. Après, pour répondre à votre question sur le côté critique, polémique, etc. Évidemment, moi, quand j'ai été nommé, donc c'est un jury, une vingtaine de personnes qui a voté, il y a eu tout de suite des points de vue sur ce que je n'avais pas encore fait. Bon, ça, c'est, je pense que c'est un peu le prix à payer pour tout type d'institution. C'est un principe français, d'ailleurs, assez français, de dire, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est pour, on est contre. Je pense qu'on a tous une tendance naturelle à avoir des a priori ou des avis avant d'avoir la matière pour les avoir. Après, donc, moi, je n'ai pas échappé à la règle. Je me suis retrouvé un peu dans la ligne de mire de tout un tas de gens qui attendaient peut-être pas que ce soit moi, ou qui auraient peut-être aimé être à ma place, ou qui auraient aimé que ce soit un copain à eux, ou voilà, enfin bon, ce que je peux comprendre, hein. Enfin, c'est humain, après c'est pas forcément très agréable, et puis après bah, c'est le travail et la ténacité et la vision aussi de d'où on part et où on veut aller qui fait que ces choses-là se dissipent peu à peu et que les choses s'apaisent et que finalement moi j'avais aucune volonté de faire la guerre quand j'ai pris ce poste-là. J'avais pas non plus la volonté de devenir le maître du monde. J'avais des envies artistiques profondes, personnelles et libres que je poursuis aujourd'hui avec absolument aucune contrainte lié au fait que je sois donc directeur artistique de ces institutions. Après, j'ai conscience des enjeux, je sais beaucoup plus qu'avant ce que représente un montant de subvention, un budget, comment il faut organiser les choses, comment il faut faire en sorte que ces choses-là deviennent des réalités tangibles, enfin, etc.
Et justement, des choses nouvelles, vous en faites, puisque vous avez insufflé une sorte de renouveau à l'Orchestre National du Jazz, notamment avec le mode de recrutement de vos musiciens, complètement inédit. Vous avez décidé de travailler avec 10 jeunes interprètes que vous ne connaissiez pour la plupart pas, et vous avez construit avec eux et autour d'eux des programmes aussi différents que un programme sur Billie Holiday, qui s'appelle Broadway in Satin, ou que une réinterprétation en deux parties des chansons du leader de Soft Machine, là ça s'appelle Around Robert Wyatt, ou alors que Discover, dont nous allons reparler. Alors, pourquoi ces choix audacieux, et est-ce que l'Orchestre National de Jazz avait besoin de son neuf, finalement?
La dimension d'audace, c'est pas du tout une chose volontaire de ma part. La seule audace que j'ai, peut-être, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Et je sais très bien que dans ce que j'ai envie de faire, il y a des choses qui répondent pas aux attentes du monde du jazz, enfin en tout cas aux premières attentes du monde du jazz. Après, ce qui est intéressant, c'est de, on n'est quand même pas là pour se faire emmerder, comme disait Boris Vian. On est dans un domaine où on est quand même un tout petit monde avec quand même assez peu de moyens. Donc, faut quand même remettre les choses à leur place. On n'est pas là. Les enjeux, c'est pas ceux de la grande distribution. Et quand on sort un disque, ça n'a pas l'impact d'un disque de Madonna. Donc du coup, on a toutes les raisons de développer et de cultiver sa liberté. Et aussi une forme de sincérité qui fait qu'en fait, au final, les a priori tombent. Et que le public, alors c'est là qu'il y a quand même un message important, c'est que en fait le public est prêt à ça.
Et c'est le plus important.
Et on croit qu'il ne l'est pas, mais on se trompe. Quand je dis on, c'est nous tous, hein, c'est tout le monde, se dit ah oui, mais bon, si on fait ça, est-ce que ça va marcher? Parce que les gens n'attendent pas ci, pas ça, ça. Mais je pense que c'est la manière d'offrir la musique qui fait que les gens sont réceptifs. Et surtout, on fonctionne toujours par référence en se disant tiens, ah oui, alors avant c'était comme ça, donc on s'attend à ce que. Voilà, nous, à chaque concert qu'on fait, il y a toujours des gens qui s'en vont dans les deux ou trois premiers morceaux. Parce que simplement, ils savaient pas trop ce qu'ils venaient voir et peut-être qu'ils sont déçus.
Mais il y a aussi des gens qui restent et qui reviennent.
Voilà, et aussi notre public, notre jauge de public, pour utiliser un terme un peu technique et assez moche, mais est multiplié par 4 depuis le début de mon mandat. Donc ça veut dire que ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Et ça veut dire que justement, cette opiniâtreté et aussi la manière dont on présente les choses, dont on en parle, dont on communique, dont on se met aussi dans le rythme de notre monde pour parler de musique qui parfois a perdu ce sens du réel, ça fonctionne, les gens sont prêts à ça.
Ben justement, le lien avec le monde, vous le conservez tout à fait avec ce spectacle Discover, puisque l'idée c'est de revisiter rien moins que le contenu d'un iPod, avec tout ce qu'il y a de plus grand du côté de la pop, du funk, de la musique classique, comme évidemment du jazz. Et alors, depuis que vous êtes arrivé donc en 2008, vous avez constitué votre orchestre. Et là, pour ce spectacle, vous dites, eh ben, très bien, il est tellement bien, ça fonctionne tellement bien ensemble qu'on va tout désarticuler. Allons-y gaiement, on désarticule tout et on va fragmenter l'ONJ en plusieurs petits quartets, duos et trios, c'est ça ?
Absolument, vous êtes très bien renseigné.
Donc au programme, on a du Bach comme du Pink Floyd, comme du Prince. Voilà, on a ce spectre-là et tout ça revisité par l'ONJ.
Voilà, alors en fait, l'idée, c'est pas de se dire ça marche tellement bien qu'on va désarticuler l'orchestre, c'est plutôt de se dire on va désarticuler l'orchestre pour que ça crée d'autres dynamiques et que ça bénéficie au collectif. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, le projet, depuis le premier jour, pour moi, c'est un projet collectif et un projet évolutif. Et tous les programmes que je fais ont pour vocation de faire découvrir aux musiciens, à moi-même et au public des choses qui sont très différentes de ce qui s'est passé précédemment et d'acquérir des compétences nouvelles, d'être confronté à des enjeux artistiques nouveaux et parfois qui nous font peur. Et en fait, moi, j'ai rarement démarré un programme avec cet orchestre en étant serein. Je me suis toujours dit, oh là là. J'ai pas peur. Mais je sais que ça peut ne pas marcher. Voilà. Donc après, moi, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre. Parce que quand on sait qu'un truc va fonctionner, c'est peut-être même pas intéressant de le faire, finalement. Donc,
alors, on parle d'iPod, justement. Qu'est-ce qu'il y a dans le vôtre ?
Oh là, il y a énormément de choses.
Qu'est-ce que vous passez en boucle en ce moment dans votre playlist ?
En fait, moi, je suis un boulimique. Donc j'ai plus de 30 000 disques chez moi. Donc ça prend pas mal de place, à la fois dans mon séjour et aussi dans d'autres pièces d'ailleurs, mais et aussi dans mon esprit. Donc alors, ce que j'écoute, je suis totalement incapable de répondre à ce genre de questions parce que moi je suis un grand zappeur. Donc en ce moment, j'écoute les Beach Boys, Lee Yeti, j'écoute David Bowie, j'écoute Messiaen. Voilà, je travaille aussi sur d'autres projets moi de mon côté, donc du coup ça m'amène à me nourrir de choses qui sont en lien avec ça.
Donc en fait, c'est un petit peu votre iPod à vous que vous nous présentez dans le Discover.
Oui, en fait,
la capacité illimitée.
Oui, j'essaye de fabriquer un orchestre qui soit le reflet de ma discothèque, qui enrichisse ma discothèque, voilà.
C'est ça. Alors, André Maillet, dans Les Remparts du Québec, disait ceci, le jazz est vif, douloureux, doux, tendre, lent, il apaise, il bouleverse, c'est de la musique, et ce qu'il rythme est vrai, c'est le pouls de la vie. On a l'impression, en vous écoutant, que vous êtes un petit peu d'accord avec elle.
C'est assez beau, hein, mais après, je suis toujours un peu... J'ai du mal à lire des choses sur le jazz. Hein. Je trouve que c'est souvent très... J'adore lire des choses sur la musique, mais j'aime pas trop les définitions. J'ai toujours un peu de mal avec ça. Puis j'aime pas non plus le... Enfin, je dis pas ça par rapport à cette situation, mais je suis toujours très méfiant vis-à-vis des romans qui se passent dans le monde du jazz ou des...
Par exemple, Jazz de Toni Morrison, on pense forcément à ça.
Oui, enfin c'est... Ou alors, je sais pas, le fait que dans un film, tout d'un coup, quelqu'un met un disque de John Coltrane, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression qu'on va tomber dans un immense cliché.
C'est ça, ouais.
C'est assez souvent le cas, d'ailleurs. Et beaucoup de films qui ont été faits sur le jazz sont des successions de clichés. Alors après, Je pense que cette phrase est assez belle, mais après, je pense que c'est une chose qu'on devrait dire de toutes les musiques. Donc, pourquoi le jazz plus qu'une autre musique pourrait... je pense que si on mettait autre chose que le jazz, on pourrait mettre la musique pop créative, par exemple. En fait, ce qu'il y a de particulier au jazz, enfin, entre mille autres choses, mais c'est que c'est une musique qui a rien à perdre, parce que, enfin, en tout cas, qui devrait rien avoir à perdre, puisque c'est une musique qui évolue dans un trop petit monde. Donc, il faut que ça change, et c'est possible. Mais donc, je pense que c'est une musique qui a rien à perdre, parce que c'est l'expression profonde d'un artiste qui va, à mon sens, hein, toucher le public, et que c'est une musique complexe. Que de toute façon le public ne comprendra pas et que nous-mêmes on comprend à peine. Donc, parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent dans ce qu'on fait. Donc je pense que une des grandes erreurs qu'on a fait au fil des années, c'est d'essayer d'expliquer cette musique aux gens, puisque les explications, elles sont toujours extrêmement parcellaires et subjectives. Après, ça n'empêche pas de s'amuser à le faire. Hein. Et du coup, moi, je passe mon temps à croiser des gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, moi, le jazz, j'y connais rien, je sais pas quoi écouter. » Et en fait, le fait d'avoir autant de commentaires un peu, intimidants sur une musique... coupe l'appétit à certaines personnes.
Ça stérilise
et,
un peu.
Ouais, et c'est très dommage. Et ça me rappelle aussi une interview de Duke Ellington que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, et à qui on demande ce que c'est que le jazz, et qui en fait essaye de le définir. On pense qu'il va y arriver et il abandonne en cours de route en disant bon, finalement, je sais pas. Et Duke Ellington, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui.
Effectivement, oui.
Voilà, c'est ce qu'on entend en fond. Là.
Bah justement, on va laisser tomber cette histoire de définition et on va parler de musique. Et je vais vous citer cette fois une citation de vous sur votre site internet, sur votre bio. C'est la toute fin, c'est le nota bene à la fin. Vous mettez ceci: NB, Ivinec est Ivinec lorsqu'il compose, réalise, arrange ou mixe. Ivinec devient Daniel Ivinec lorsqu'il basse, contrebasse et torture tout instrument qui l'intrigue. Donc là, on voit bien, on enlève jazz, on met musique, et c'est la musique qui rythme votre vie à vous et qui est le cœur de votre vie. En somme, vous êtes musicien avant tout, et c'est dans le jazz peut-être que vous vous accomplissez le plus, on va dire.
Disons que c'est dans le jazz que je passe une bonne partie de mon temps. Enfin, je suis musicien classique, au départ je suis oboïste, et après j'ai commencé à faire du rock. Enfin bon, je suis parti un peu dans plein de directions différentes, et j'ai appris des choses, pas mal de choses seul aussi après. Enfin bon.
Vous êtes allé aux États-Unis?
Après, je suis allé aux États-Unis pour travailler le jazz, justement, à la Manhattan School of Music. Et donc, quelque part, j'ai une formation réelle, mais en même temps, j'ai toujours été dans plein de mondes différents. Et à une époque, je pensais que c'était peut-être une erreur, parce que je voyais des gens autour de moi qui se spécialisaient, qui étaient extrêmement pointus dans un domaine. Ça, je me disais, mais moi, en allant vers tous les endroits que j'ai envie de fréquenter, je vais peut-être me perdre en route. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que je fasse ce que j'aime, et voilà, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, et voilà. Et c'est vrai que quand quelqu'un me présente à quelqu'un d'autre en disant Daniel Ivinec, musicien de jazz, ça me dérange pas, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Après, c'est pas très grave. Oui, voilà. Enfin, je pense que c'est suffisant. Après, bon, si on me demande ce que je fais, je peux expliquer.
Musicien et puis surtout contrebassiste. Mais alors, vous le disiez tout à l'heure, ce qui est drôle, c'est que vous avez commencé par autre chose complètement, ouais, que la contrebasse, le hautbois. Dans toujours sur votre site internet, votre bio commence comme ça m'a beaucoup fait rire. Conçu en Angleterre et né entre deux artichauts labellisés bretons, Ivinec le jeune, vite émigré parisien, s'initie plutôt à la pratique du hautbois et du solfège. Alors au départ, c'est le hautbois, après c'est le rock. Et alors, comment se fait la rencontre avec la contrebasse?
En fait, c'est fait par la basse. Enfin, ensuite, j'ai joué de la guitare. Et puis je faisais partie d'un groupe dans lequel est arrivé un très très bon guitariste, beaucoup plus avancé que moi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire de la basse. Donc je suis devenu bassiste électrique. J'ai appris cet instrument donc seul, comme j'avais appris la guitare seul, avec des disques, en jouant, enfin, etc. Et puis Et puis j'ai fait quand même énormément de choses à la guitare basse. J'ai accompagné beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de séances de studio avec plein de gens très différents, allant de, je sais pas, de Salif Keita, John Cale, Maceo Parker, enfin des choses très, très variées, Tania Maria. Je vais pas citer tout le monde. Et du coup, ça a été une première partie de ma vie. Ensuite, j'ai découvert la contrebasse un peu par hasard, parce qu'on m'a donné un instrument.
C'est ça, c'était une Mirecourt,
voilà,
et de la fin du 19e siècle, voilà, un peu en piteux état, je crois.
Ouais, qui était en très mauvais état et que d'ailleurs j'ai fait réparer par un... Je suis venu à Lyon pour la faire réparer.
Par un luthier particulièrement expert.
Ouais, mais qui était aussi très sympa et qui n'a pas snobé mon instrument, ouais, en piteux état. Et m'a dit, ok, bon, on va la réparer cette basse. Et c'est un monsieur qui s'appelle Chabert. Donc voilà, et
il nous écoute.
Voilà. Et en fait, donc voilà, c'est une contrebasse. Enfin, c'est une histoire de fou. J'ai rencontré un mime en Bolivie qui avait une contrebasse qui dormait dans son grenier et qui attendait de rencontrer quelqu'un à qui il a donné. Voilà.
Et vous êtes passé là.
Et il se trouve que je l'ai croisé complètement par hasard. Il était à côté de moi lors d'un dîner et puis un moment, il m'avait entendu jouer de la basse électrique et puis il me dit, mais tu joues de la contrebasse, toi? Je lui dis, bah non, pas vraiment, mais bon, j'en ai pas. Un de ces quatre, il faudrait que je me mette. Il me dit, bah si tu veux, moi j'en ai une. Et je te la file. Donc voilà, ça a démarré comme ça.
Par une rencontre.
Voilà, et donc j'ai appris la contrebasse d'abord complètement sauvagement. Et puis après, j'ai pris des cours. Je suis retourné au conservatoire. Enfin, j'ai fait ça comme un môme, en fait, mais j'étais plus un môme. Et j'ai donc passé les degrés, bon, évidemment un peu en express, parce que j'avais quand même un peu d'expérience.
Oui.
Et voilà, c'est devenu mon instrument principal aujourd'hui, mais je joue pas mal d'autres trucs aussi. Enfin, je bricole pas mal d'autres instruments.
Oui, d'où le fait que vous torturiez tous les instruments qui, voilà. qui passent sous votre main. Alors juste, parce que c'est d'actualité, c'est tombé là dans la semaine, on a appris que le budget du ministère de la Culture serait réduit de 4,3%. Quand vous entendez ça, surtout vous qui faites partie, voilà, on l'a dit, l'Orchestre National du Jazz, il a été créé par le ministère de la Culture, vous êtes subventionné par le ministère de la Culture, ça vous fait pas un peu peur le fait qu'il y ait des baisses comme ça, des coupes dans le budget du ministère de la Culture?
Pour
revenir à des choses un petit peu moins réjouissantes, pour dire.
Non, mais disons que moi ça me fait pas peur d'un point de vue personnel, ça me fait peur en tant que citoyen.
C'est ça, oui.
Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, pour moi, on mesure quand même la santé d'un peuple à la vivacité de sa culture et à son éveil. Et je pense qu'on sous-estime vraiment. Enfin, peut-être qu'on sous-estime pas. Peut-être qu'on justement on a conscience à quel point c'est important et que finalement c'est peut-être pas si souhaitable que ça que les gens soient très éveillés. Je sais pas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une là-dedans, mais en tout cas, c'est, ce qui est certain, c'est que ça apporte des choses fondamentales à l'être humain, des valeurs et des repères et du bonheur aussi. Mais il y a aussi une chose, c'est que ça, enfin, ce que je pense que ne mesurent pas toujours certains politiques, c'est que la force de la culture, ça peut aller très très loin, c'est-à-dire que ça peut, l'image par exemple d'une ville peut totalement être chamboulée par l'apparition d'un festival qui va devenir quelque chose d'important, par un événement annuel qui va prendre une ampleur énorme, en fait.
Je pense à la situation d'Avignon avant la création du festival
par exemple. Ou on peut parler des transmusicales de Rennes ou du festival de jazz de Marciac, qui est un petit bled qui le reste de l'année habité par très peu d'habitants. Enfin, je sais pas, je prends des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'on mesure pas à quel point justement ça draine des curieux, des touristes, ça fait marcher des hôtels, ça fait marcher des restaurateurs, etc. Alors là, je suis très trivial, mais je pense que bien gérer de l'argent qui aide la création ouverte et généreuse doit quelque part constituer un énorme retour sur investissement sur des domaines où on a besoin que de l'argent rentre dans les caisses.
Oui, c'est pas du tout trivial ce que vous dites, parce que finalement ça donne un autre point de vue sur ce secteur, le secteur de la culture, que certains politiques appelaient le secteur de l'inutile. Avec vous, on voit bien de manière concrète que la culture, c'est évidemment nécessaire à l'individu pour qu'il se forme et qu'il se forme sa personnalité et qu'il vive, mais c'est aussi nécessaire tout simplement pour une ville, comme on disait, donc c'est pas du tout trivial.
Je pense qu'on peut constater ça si on regarde historiquement, même dans les 20 dernières années, il y a des tas de choses qui ont totalement transformé l'image d'une ville et parfois des villes qui avaient des très mauvaises images. Et il y a même des villes dont le nom a presque disparu au profit du festival ou de l'événement culturel qui s'y passe. Ouais, et c'est vraiment un truc intéressant. Par contre, ça demande un peu de gamberge, quoi. Ça demande, ouais. Ça demande de se creuser la tête, ça demande de suivre les dossiers aussi de subventions, ce qui, à mon avis, est justement un dossier sur lequel il faudrait se pencher d'une manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus dynamique. Moi c'est en tout cas l'impression que j'ai. C'est pas du tout pour fliquer quoi que ce soit, c'est juste parce que on peut pas faire n'importe quoi avec de l'argent public, que c'est notre argent à tous, qu'on paye des impôts pour ça, et que du coup il faut que le citoyen quelque part ait la monnaie de sa pièce, quoi. Moi je le vois comme ça, et je pense que le jazz ne doit pas échapper à ça, c'est-à-dire que quelque part il faut. On n'est pas une petite bande de privilégiés qui fait une musique que personne ne comprend. On est des gens qui doivent prêcher cette parole et ne pas avoir peur d'aller jouer dans la rue ou de jouer devant des publics qui ne nous attendent pas parce qu'on est aidé pour ça.
C'est pour ça que vous faites des tournées dans toute la France. Vous n'êtes pas juste dans une
salle
parisienne. Oui,
et dans le monde entier d'ailleurs.
Et vous faites des tournées.
On travaille, on va partout, on est allé en Chine, on est allé aux États-Unis, on est allé en Amérique du Sud, là on part en Australie, on revient d'Afrique du Sud, enfin on voyage beaucoup et lors de nos voyages, on rencontre des gens, on fait des rencontres avec des artistes, on fait des rencontres avec les publics. Moi je propose systématiquement après les concerts, je fais ça totalement bénévolement, de rencontrer le public, de faire des débats, je vais dans les écoles, je vais dans des quartiers, enfin je fais des choses comme ça. Ça a énormément d'impact. Alors après, évidemment, je vais pas être en couverture de gala parce que je fais ça, je sais pas si ça existe encore.
Mais, je crois.
Mais je veux dire, c'est des choses importantes. Et c'est des choses, récemment, on a fait justement une version du Pink Floyd, là, Dark Side of the Moon, avec un orchestre de lycéens. Il y a un des musiciens de l'orchestre qui a écrit tout un arrangement pour cet orchestre, qui a joué avec les musiciens de mon orchestre. Bon, les mômes, je pense qu'il y en a dont la vie va changer après ça. Bon, même s'il n'y en a qu'un ou deux, c'est déjà énorme. Et pour moi... moi, c'est peut-être ça mon engagement politique, en tout cas. Si je pense que c'est un truc de terrain. Je me suis mis dans un peu un guépier au départ. C'est ce qu'on décrivait au début. Mais en même temps, c'est super parce que je suis à l'intérieur de quelque chose. Et à l'intérieur de ce quelque chose, je peux... J'ai une marge de manœuvre. Et c'est moi qui me la donne, cette marge de manœuvre. Et au fond, si ça fonctionne, qui peut m'en empêcher ? Personne. Donc... ce qui serait problématique, c'est si ça fonctionnait pas et si on se disait on subventionne une structure qui ne fonctionne pas
et tournant,
à partir du moment où on arrive à faire fonctionner cette machine et qu'on arrive à sensibiliser les gens autour de nous et à grandir, il n'y a pas de raison que ça s'arrête et on s'aperçoit que il y a beaucoup plus d'espoir et de force que ce qu'on peut imaginer.
Alors, on l'a dit, vous avez joué avec les plus grands, vous avez collaboré et écrit des musiques et des chansons par centaines, à l'image de votre discothèque, certainement. Vous êtes aujourd'hui donc à la direction artistique de l'Orchestre National du Jazz, qui vous donne, on l'entend bien, une liberté et une créativité immense. Alors, Daniel Evinec, pour conclure cet entretien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Ah, c'est gentil de poser la question.
vous en prie.
Il faut que j'y réfléchisse. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est... Mon mandat se termine fin 2013. C'est une très bonne chose parce que j'ai besoin aussi de passer à d'autres... d'autres choses, enfin c'est une très bonne chose et puis ça sera forcément un pincement au cœur parce qu'on vit une aventure absolument extraordinaire et qu'on s'adore et que du coup ça va pas être facile, mais bon voilà, je le sais, on le sait tous et ça se fera et il n'y a pas de problème là-dessus. Après moi ce que je souhaite, c'est de pouvoir continuer d'acquérir la liberté d'exprimer les choses comme je les ressens le plus profondément, de pouvoir gagner ma vie avec ça et de pouvoir aussi réussir à mettre le public, alors quand je dis public, c'est l'auditeur, celui qui écoute des disques chez lui, celui qui se déplace au concert, dans un monde dans lequel il pensait ne pas aller avant soit d'écouter un disque, soit de venir à un concert, et dont ils sortent un peu chamboulés. Voilà, c'est déjà pas mal.
Et... Alors, on peut vous souhaiter d'être libre et de continuer à faire votre musique et voilà, de faire découvrir votre musique.
Oui, c'est beaucoup déjà.
Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.
Après cette rencontre avec Daniel Litvinek, j'ai pu assister à deux des quatre concerts de la série Discovers. D'abord, Anatomy of a Murder, magnifique bande originale de Duke Ellington, composée pour le film du même nom, d'Otto Preminger, sorti sur les écrans en 1959. Les quatre musiciens, Johann Serra, magistral à la batterie, qui nous a offert des morceaux de bravoure lors de solos endiablés, surréalistes, Mathieu Metzger, qui nous a notamment enchanté lors de son solo au saxophone baryton, un instrument méconnu, mais vraiment magnifique. Sylvain Daniel, qui a joué de la trompette comme un extraterrestre, vraiment, changeant physiquement derrière un instrument dont il nous a fait entendre toutes les nuances et toutes les possibilités, même les plus extrêmes et les plus drôles. Enfin, Rémi Dumoulin au saxo et la clarinette, guidant expert ses amis dans ce récital élégant, enlevé, éblouissant. Ensuite, place à Pink Floyd et à trois autres musiciens qui s'échangèrent leurs instruments, piano, synthé, effet électronique, flûte, guitare, guitare électrique, pour un moment de grâce et de poésie tout simplement, lors de cette redécouverte et de cette réinterprétation de The Dark Side of the Moon. Grâce à eux, nous étions bel et bien sur la Lune et nous y serions bien restés. Vous l'aurez compris, vous avez manqué quelque chose, oui. Surtout que la place de concert était à 5 euros. Alors je ne vous donne pas souvent les prix des spectacles, mais là je trouve que c'est important que vous compreniez qu'à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, non seulement il y a des spectacles de grande qualité, mais qu'ils sont aussi tout à fait abordables pour les bourses des étudiants que nous sommes. Maintenant vous êtes donc au courant, l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon est un lieu incontournable de culture, à ne pas manquer donc. Au mois d'octobre, place à l'Amphimonde, avec cette semaine et jusqu'à vendredi, le festival de littérature latino-américaine des Belles Latinas. Avec également, samedi 6 octobre, le concert Cuba Trova de la chanteuse Ludmila Mercieron, qui vous convoque pour une fête solaire et cadencée. Et toujours dans cette programmation de l'Amphimonde, le samedi 20 octobre, notez-le bien, un concert d'oud palestinien, cet instrument méconnu. Je vous le disais, le midi, à l'amphi, c'est gratuit. Alors, il n'y a pas d'événement tous les midis, tout de même. Mais quand il y en a, c'est-à-dire ce mois-ci tous les mercredis et tous les vendredis, l'entrée est en effet libre. Ainsi, par exemple, les mercredis et vendredis 10 et 12 octobre, vous pourrez écouter un concert de percussions orientales traditionnelles et contemporaines. Et la semaine suivante, toujours les mercredis et vendredis midi, c'est un concert de musique de chambre qui sera donné. Entre autres choses, renseignez-vous vraiment sur la programmation. Je signale aussi aux amateurs de musiques urbaines, les jeudis 11 et vendredis 12 à 20h30, la rentrée de Projet Bizarre, qui vous propose un programme allant des mix ciné-planants de Révérence au hip-hop hybride de The Wagon et Liquid and Cheap. Les amateurs comprendront, j'avoue que pour ma part, j'ai eu un peu l'impression de vous annoncer un spectacle au titre en sud-coréen. Mais ce doit être parce que je ne suis définitivement plus à la page concernant les musiques urbaines. Macbeth, Ça, je connais, et ce n'est pas du sud-coréen. Et en parallèle de l'opéra de Verdi donné en ce mois d'octobre et auquel nous allons insister pour vous, eh bien l'amphithéâtre vous invite gratuitement à une conférence sur le sujet le lundi 15 octobre à 18h. Un programme riche, éclectique et qui change profondément de mois en mois. Pour plus de renseignements, reportez-vous donc au site internet de l'Opéra de Lyon. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. J'espère vous avoir donné envie de pousser la porte de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon pour écouter du jazz ou d'autres styles de musique. Retrouvez la programmation éclectique de l'amphi sur le site de l'Opéra de Lyon. Un grand merci à Daniel Ivinec pour sa disponibilité. Merci également à Sophie Jarja, attachée de presse à l'Opéra de Lyon, pour son aide précieuse. Enfin, merci à Antoine, à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas été possible et qui a fait des heures sup pour permettre son enregistrement. Cette semaine, vous pouvez également écouter deux autres émissions spéciales dans Spectateur, consacrées notamment à la critique du Festival des Cités Muses, que nous couvrions en partenariat avec En Scène pour vous. N'oubliez pas, sur la page en plus de notre site internet, en lien avec ces deux autres émissions dans Spectateur, les critiques à l'écrit en version longue et enrichie des spectacles que nous vous proposons dans notre émission. Toujours sur la page en plus, petite nouveauté cette semaine, le dessin de la semaine de Mallory Frank remplace l'inénarrable dessin de Plantu. Sinon, sur les ondes transhistoriennes, ne manquez pas le premier numéro de l'émission la plus originale de la rentrée, Osons les mots Existence, pilotée par Marie-Ève, une émission sur la vie et la foi, consacrée pour son premier numéro à la colère. Sinon, Cyril vous propose également cette semaine de mettre une pièce dans son jukebox, vraiment hilarant. Je vous laisse donc en bonne compagnie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Spectateur où nous recevrons notamment l'équipe du prochain spectacle proposé en théâtre Cantor par En Scène, la tragédie Suréna de Corneille, jouée par la compagnie La Lumineuse. Et dans cette émission, nous ferons également la critique de la pièce Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, jouée au Célestin, que je vous présentais dans le quatrième numéro dans Spectateur qui est également sorti ce mercredi. D'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra, à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon également, ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.